Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec bien évidemment un nouvel invité, Loïc Le Goff. Bonjour Loïc Le Goff.
J'ai heureux de vous revoir.
Absolument, nous nous retrouvons puisque nous avions enregistré une émission sur un de vos. C'était votre premier roman. Oui. Paru alors aux éditions de l'Armançon, c'était en 2016, un entretien qui avait été diffusé sur l'antenne de Radion courant septembre donc de l'année 2016. Et vous revenez sur le devant de l'actualité littéraire avec un nouveau roman intitulé « Le Grand Détour », sorti cette année 2022, il est assez récent d'ailleurs, et c'est aux éditions Mutine. Je vous présente à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes un Breton, vous êtes né dans le Morbihan et vous avez grandi à Saint-Malo.
Intramuros.
Après des études littéraires, vous vous tournez vers le journalisme et la publicité en tant que concepteur-rédacteur. Vous avez eu un goût prononcé pour la militance sociale qui vous a amené à vous engager dans un service civil de 3 ans chez Emmaüs et par la suite... Vous êtes devenu responsable des communautés Emmaüs dans la Nièvre. Je souligne que vous avez fort bien connu l'abbé Pierre.
Oui, très bien. J'ai fait partie du premier cercle. Je le voyais souvent. On échangeait beaucoup. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir peut-être profité assez de ces instants avec lui. J'aurais pu écrire là aussi quelque chose. Bon, j'ai écrit après un livre sur les compagnons d'Emmaüs.
Donc, compagnons de l'abbé Pierre chez Bayard, qui a été repris d'ailleurs chez France Loisir, avec une préface de Lambert Wilson, qui avait d'ailleurs incarné le rôle de l'abbé Pierre dans ce film resté célèbre, Hiver 54. Un tout petit mot sur l'abbé Pierre, personnage marquant de votre vie?
Oui, bah, bien sûr. On ne pouvait pas côtoyer l'abbé Pierre sans être marqué par, à la fois par sa personnalité, par sa parole, par ses actions aussi. C'était un homme remarquable dans sa capacité d'écoute des gens, de la compassion qu'il pouvait avoir, dans l'amitié qu'il pouvait porter aussi aux gens. Et je crois que ça a été certainement le plus grand vide de ma vie lorsqu'il a disparu.
Le Grand Détour, c'est votre dernier roman, paru donc aux éditions Mutine. Roman, alors j'allais dire historique, roman aussi présenté dans sa quatrième de couverture comme un roman social. Là, vous changez complètement d'univers, de registre et de thématique littéraire. L'histoire vous intéressait? Cette période, puisque c'est la Restauration, hein, le roman débute en 1823, donc on est... 9 ans après la chute de Napoléon qui a dominé l'Europe, c'est le retour des Bourbons sur le trône, c'est cette période qu'on appelle la Restauration, donc le retour de la monarchie dans une France qui s'était, habituée à la gloire napoléonienne. Ce n'était pas d'ailleurs unanime, on le voit bien dans votre roman, vous mettez en scène un jeune homme, Pierre Thiérault, fils de paysans, de flotteurs, donc nous sommes dans le Morvan, pas loin de Clamecy, et vous déroulez la vie de ce jeune homme au début des années 1820 dans une France coincée entre attachement au roi ou envie de rébellion. J'ai résumé de manière très simple et sans doute et forcément imparfaite votre roman. On va rentrer dans les détails, bien sûr.
Oui, les deux premiers romans que j'avais écrits, c'était des romans, enfin, ce que j'appellerais, moi, des romans prétextes. Mon éditeur avait voulu en faire des romans policiers, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais au départ. Je voulais parler de la Nièvre, de ce pays, je voulais parler des gens de ce pays actuellement, des gens qui vivent dans les petits villages. Et j'ai abandonné ce filon pour parler de la Nièvre, mais à une autre époque, à une époque d'injustice sociale.
C'est la Nièvre des galvachés, la Nièvre des flotteurs, des petites gens qui souffrent.
De l'industrie aussi.
Et de, absolument.
Bon, ma fibre bretonne a fait que j'ai débordé un peu. Je suis allé un peu plus loin que la Nièvre. Mais j'ai voulu faire de ce livre l'image même du roman tel que moi je l'entends. Pour moi, le roman, alors c'est peut-être une définition simpliste, mais c'est avant tout une histoire. Alors, intéressante ou pas, ça c'est le lecteur qui le dira, avec un style aussi, et là aussi, intéressant ou pas, agréable ou pas, et là aussi c'est le lecteur qui le dira, mais il doit y avoir donc ces deux éléments, ça me paraît important. Et j'ai voulu vraiment qu'il y ait une histoire.
Alors l'histoire, elle est bien, bien présente, bien marquée, cohérente.
C'est vous qui le dites.
Oui. Le style aussi, alors vous renouez avec des descriptions qui sont absolument superbes. Vous savez aussi, à la manière de Hugo, le style épique, l'hyperbole, cette grandeur. Alors ça va de l'épopée napoléonienne. Tout comme le travail des compagnons forgerons, la forge, il y a un côté un peu zolien où on retrouve, parce que ce roman est miroir des écrits et des thèmes de Hugo, de Zola, Balzac. Là, vous montrez un peu les ouvriers, Balzac, mais Balzac n'a pas, lui, beaucoup montré le monde ouvrier.
Dans toutes les connaissances que j'ai pu avoir et dans les lectures que j'ai pu avoir, il y a trois choses qui m'avaient marqué à propos de la souffrance humaine. C'était la retraite de Russie. Je me suis demandé comment des hommes ont pu, des femmes aussi, ont pu survivre à cette horreur. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 500 000 soldats qui sont rentrés en Russie. Il y en a eu 50 000 qui sont revenus. C'est atroce. J'ai été marqué parce que je suis malouin aussi, toujours par le froid des Terre-Neuve, les pêcheurs qui partaient donc pêcher la morue au large de Terre-Neuve avec peu de protection.
Oui.
Et qui affrontaient quand même des climats d'une terrible hostilité.
Coupés de leur famille pendant six mois.
Et vivant de manière atroce. Et qui repartaient pourtant régulièrement, tous les ans, qui reprenaient le bateau pour repartir là-bas vers les mers glaciers. Et le troisième élément, ça a été la lecture d'un livre qui s'appelle La Chaîne et qui raconte justement, mais de manière tout à fait historique, la déportation des forçats depuis Paris jusqu'au bagne de Brest ou de Toulon et qui faisait comme ça quelques centaines de kilomètres, hein, près d'un millier de kilomètres enchaînés par le cou et par le pied. Et on se demande aussi là comment ils ont pu survivre. C'était des bagnards, mais il y avait certainement quelques criminels, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'innocents aussi, ou de gens condamnés simplement pour leurs idées. Quoi.
Alors,
j'ai essayé de mettre ces trois éléments qui m'avaient un peu marqué, qui traînaient au fond de ma tête. J'ai essayé donc de les mettre dans un seul livre, et c'est ce qu'on retrouve dans Le Grand Détour.
Au cœur du Grand Détour, votre roman, Loïc Le Goff, donc il y a Pierre Thiérot, le jeune homme, qui a le malheur de s'enticher de la fille d'un...
Ou le bonheur.
D'un nouveau riche, bonheur aussi, de s'enticher de la fille d'un ancien des campagnes napoléoniennes qui s'appelle Dorgeville. C'est la raison pour laquelle vous racontez les épisodes, la campagne de Russie, la Moscova, l'incendie de Moscou, septembre 1812. Ça rappelle aussi Fabrice à Waterloo. Mais bon, Dorgeville est un boucher, certes, c'est tout de même un homme courageux qui... Il y a un côté un peu ambigu, ambivalent personnage.
Qui fait aussi fortune dans les armes.
Il revient surtout avec le butin de Moscou.
Voilà, de Moscou. Il y en a beaucoup quand même qui sont revenus avec cela. Parmi ceux qui ont pu revenir, du moins. Oui, Dorgeville, soldat ou soldatesque, je ne sais pas comment on peut dire, revient de Moscou, arrive à traverser la Bérézina.
Alors, il y a la Bérézina, je rappelle, c'est fin novembre 1812, oui, j'aime bien remettre des dates.
C'est une épopée elle-même. La Bérézina, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Des pontonniers qui rentrent dans l'eau, qui est chargé de glaçons, et qui sont sûrs de mourir, ou pratiquement sûrs de mourir, et qui y vont quand même, quoi, pour pouvoir faire ces deux ponts qui permettront au reste de l'armée napoléonienne de traverser la Bérézina.
Et Dorgeville participe à la construction du pont. Voilà. C'est un miraculé, parce qu'il tombe à l'eau et il est sauvé.
Oui, oui.
Et Napoléon, d'ailleurs, lui offrira un uniforme.
Et il s'en rappellera au moment de sa propre déportation à l'île d'Elbe. Dorgeville revient en France avec un petit butin, un bon butin même, trouvé dans les ruines de Moscou. Et il va acheter un domaine dans le Nivernais. Le Nivernais qui n'avait pas été beaucoup touché par la guerre à cette époque, un peu loin des frontières, quoi, mais qui était quand même déjà un pays assez pauvre. Au moins, il y avait eu des ponctions sur le plan humain, puisque l'armée napoléonienne, quand même, cherchait toujours quand même de nouvelles recrues. Il va donc s'installer dans la Nièvre et devenir un gros propriétaire terrien. Quoi.
Et donc, il a une fille qui se prénomme Milly, et dans ce village de Meurzy,
oui.
Fictif. Ce village de Meurzy, il y a la famille Thiérault, donc notamment votre jeune héros, Pierre, qui tombe amoureux de Milly. C'est une histoire qui va un peu loin, puisque Milly va attendre un enfant de Pierre. Et alors là, catastrophe, parce que c'est une mésalliance. Et Milly, la fille de Dorgeville, était promise à des hommes de conditions sociales très nettement supérieures à celles d'un fils de petit paysan modeste.
Oui, et puis même pour Dorgeville, c'était marier sa fille à un noble ou même à un nobliot aurait été une promotion sociale pour lui, qui était quand même issu du peuple, quand même. Ça va être pour lui un échec et une souffrance aussi, il faut le reconnaître.
Et une immense colère qui débouche sur un désir de vengeance à l'égard de Pierre Thiérault qui a osé aimer sa fille.
Oui. Mais Pierre Thiérault est quelqu'un quand même qui a du caractère aussi. Pierre Thiérault est le fils d'un fermier mais qui est aussi un flotteur, donc quelqu'un qui a une connaissance aussi du monde, puisque c'est quelqu'un qui a été souvent à Paris, qui est en contact avec quelques milieux révolutionnaires.
Républicains.
Républicains, qui revient souvent avec des documents.
Des prospectus, des idées en tout cas.
Oui, des idées qui ne sont ni celles de la royauté, ni celles de l'Empire. Et ça lui vaudra d'ailleurs de mourir dans les rues de Paris et de laisser Pierre orphelin. Mais Pierre gardera de son père donc ce caractère.
Et l'amour de la terre aussi, surtout.
L'amour de la terre, certainement. mais aussi l'amour de la liberté, je crois. Hein. Et la liberté, c'est un garçon qui va découvrir, à travers son histoire, toute personnelle pourtant, toute une injustice sociale. Et c'est ce que j'ai voulu, au-delà de cette histoire qui pourrait être qu'une histoire d'amourette, hein. Il y a quand même la définition aussi de cette injustice, cette incapacité de qu'il y ait un phénomène de tuilage entre les différentes classes, où il y a un apartheid social très, très fort encore à cette époque. Et Pierre, par son amour pour Milly, va faire en sorte de renverser ses barrières et d'aller vers cette liberté qu'il revendique.
Nous revenons avec vous, Loïc Le Goff, pour le grand détour juste après une petite pause musicale. C'est notre invité aujourd'hui pour son dernier roman paru aux éditions Mutine, un roman d'aventure au style épique et aux descriptions hallucinantes, dit la quatrième de couverture. Donc la descente du grand flot vers Paris, la retraite de Russie, la vie des ouvriers des forges de Guérigny, la pêche en mer sur un Terre-Neuve au milieu des blocs de glace. On évoque tout cela juste après ces wagons livres, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Cette foutue envie de te battre, fais sauter le moniteur, mon cœur.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Loïc Le Goff, juste avant la pause musicale, vous expliquiez que votre héros, Pierre Thiérot, a effectivement découvert le métier, l'activité de flotteur grâce à son père. Alors j'aimerais tout de même qu'on rappelle rapidement en quoi consiste le flottage. C'est le flottage du bois qui va du Morvan jusqu'à Paris.
Lorsque Paris a commencé à se développer, il a fallu du bois de construction, il a fallu du bois de chauffage, il a fallu du bois pour alimenter les fours à pain. Et Paris avait la chance d'avoir quelques forêts autour de la cité, mais ces forêts ont très très vite été abattues. Et les rois se sont réservés deux forêts, celle de Fontainebleau et le bois de Boulogne, pour la chasse. Et c'était absolument intouchable, ça faisait partie du domaine de chasse des rois. Donc, mais le besoin de bois se faisait toujours sentir. Et on a trouvé comme solution à l'époque donc, de faire venir le bois du Morvan, le Morvan bon, connu pour ses forêts. Et pour amener le bois à Paris, on utilisait les voies navigables. Alors on coupait le bois dans le Morvan. Il était lâché en hiver dans des petits cours d'eau qui l'amenaient dans l'Yonne.
Dans des ports ?
Oui, le port de Clamecy en particulier. Là, on en faisait ce qu'on appelait des trains, c'est-à-dire de grands radeaux, qui étaient dirigés par des flotteurs et qui allaient donc jusqu'à Paris.
Des grands radeaux de bois, donc il fallait donc assembler les bûches. Voilà. Et vous dites que
un art.
Oui, ça pouvait être 100 stères de bois.
Oui, 100 stères de bois, donc attachés, sans un clou.
Et des radeaux de 70 mètres
oui,
de long.
70 mètres de long. Et qui allaient donc jusqu'à Paris. Ils étaient doublés lorsqu'ils avaient quitté la zone de ce qu'on appelle les pertuis, c'est-à-dire les passages un peu difficiles. Ils étaient doublés. Et il y avait deux compagnons flotteurs qui les dirigeaient jusqu'à Paris. C'était quand même tout un art aussi de la navigation pour faire cela. Et ensuite, ces bois étaient vendus sur Paris, ces radeaux étaient démontés et les compagnons revenaient donc à pied jusque dans la Nièvre pour quelquefois repartir. Et c'est ce que Pierre Thiérault a fait avec son père pendant plusieurs voyages.
Oui, dès l'âge de 13 ans, hein, oui, Pierre va devenir flotteur avec son père.
Oui, il n'y avait pas de limite d'âge à l'époque pour le travail.
Et étape parisienne, où là, le père de Pierre va voir un imprimeur. Effectivement, c'est là que circulent les idées politiques nouvelles.
Les idées républicaines. Et repéré sans doute par ce qu'on appellerait aujourd'hui les renseignements généraux. Donc, il va être assassiné dans la rue, donc, parce que sans doute, c'est pas dit dans le livre, très certainement parce qu'il transportait vers Clamecy des idées révolutionnaires qui amèneront d'ailleurs un peu plus tard aux émeutes qu'on a connues à Clamecy.
D'ailleurs, Pierre Thiérault, votre héros, retient la leçon de son père qui lui dit « Ne sois jamais leur esclave, tu dois être un homme de service et non de servitude. »
Oui, c'est important. Être un homme de service, ça peut être une grande fierté, c'est un honneur. Servir les autres, c'est quelque chose de beau. Être dans la servitude, par contre, c'est la déchéance. Hein. C'est la déchéance de la liberté, c'est la déchéance de l'humanité. C'est deux choses complètement différentes.
Ne sois jamais leur esclave, tu dois être un homme de service et non de servitude. Alors, Pierre Thiérault, assassinat de son père. Sa mère se retrouve seule. Et puis surtout, Dorgeville, l'homme fort, puissant et riche du village, apprend que sa fille attend un enfant de ce petit paysan. Et Pierre est contraint de quitter le village, sinon la vindicte de Dorgeville va s'abattre sur lui.
Oui, alors lui ne veut pas.
Il ne veut pas laisser sa mère seule, surtout.
Il ne veut pas laisser sa mère seule. Il veut résister à Dorgeville. Les leçons du père sont encore dans sa tête. Mais il est conseillé quand même à la fois par le curé du village et par un forgeron. On lui conseille quand même de s'éloigner, laisser peut-être le temps faire son œuvre. La colère peut-être du père s'apaiser. Et donc il va quitter. Il va quitter Mercy pour aller vers Guérigny.
Et c'est le début du grand détour, on peut dire. Hein,
voilà, oui, oui.
Et alors Guérigny ? Alors Guérigny, c'est dans la Nièvre, c'est au nord-est de Nevers.
Voilà, c'est ça.
Et ce sont les forges de Guérigny ou les forges de la Chaussade.
Alors
un petit mot sur ces forges de Guérigny.
Peu de gens le savent, mais... Les ancres de marine ont longtemps été fabriquées en pleine terre nivernaise.
Oui.
Ça peut paraître étonnant, mais il y avait plusieurs raisons. Il y avait du minerai de fer, à l'époque, assez accessible. Il y avait du bois, il fallait faire marcher les fours. Il y avait un savoir-faire, il y avait des ouvriers là qui depuis longtemps...
Une bonne centaine apparemment.
Oui, oui, oui. Il y avait des ouvriers qui depuis longtemps travaillaient le fer. Et puis, il y avait un dénommé Chaussade, qui était bien vu à la cour, qui avait quelques relations au ministère de la Marine, et qui a su décrocher des contrats donc, pour que ces ancres de marine qui, à l'époque, enfin avant Chaussade, venaient souvent des pays nordiques, et n'était pas de très bonne qualité. Or, on doit savoir que sur un navire de marine, il ne faut surtout pas qu'une ancre chasse, comme on dit, sur le sol, sur le fond marin, parce que c'est la dérive du bateau et qui va souvent s'échouer sur la côte. Donc, il fallait des ancres de qualité. Les Nivernais ont su le faire, Chaussade a su le faire. Il a su développer son entreprise. Et là, il y avait plusieurs centaines d'ouvriers qui y travaillaient. Et on peut visiter encore aujourd'hui, d'ailleurs, ces forges, où les conditions de travail étaient celles de l'époque. Quoi.
Alors, lis un passage, justement. La découverte du monde industriel. Ce qu'il avait vu était un autre monde, enfermé dans la violence, dans les torsions du métal frappé, façonné, corroyé. Un monde où la matière devait céder sous les coups répétés, sous l'obstination brutale des hommes et de leurs outils.
Et oui.
Alors, en cela, je disais, ça rappelait avec... beaucoup d'avance, l'univers industriel de Zola, par exemple.
C'est le début de l'industrialisation.
Avec l'industrie qui dévore les hommes, qui les broie, qui les abîme, qui les maltraite.
S'il n'y avait que les hommes, il y a les enfants aussi.
La thématique des enfants exploités, des enfants esclaves, finalement, ressort beaucoup dans le roman.
Oui, parce que... C'est une force de travail, un enfant à cette époque. Et on le retrouve dans l'industrie, on le retrouve dans l'agriculture, mais on le retrouve aussi
sur
dans
les
la
navires.
Pêche.
Sur les navires, oui.
La même chose.
Oui.
Et c'est vrai que cette condition des enfants, par rapport à celle des nobles ou des riches de l'époque, c'est quelque chose là qui est cruel. Quoi.
Et votre héros pense beaucoup aux enfants.
Oui. Hein.
Lui-même est très touché quand il voit ses enfants exténués, exploités. Un extrait de votre roman. Pierre pensait aux enfants de Clamcy sortant les bûches de l'eau glacée, ceux des forges épuisées, vieillies avant l'âge, ceux encore qu'il avait vus dans la crique près de Roscoff, futurs mousses sans doute ou domestiques dans quelques fermes. Tous souffrent douleurs corvéables, miséreux, sans enfance, livrés à la violence et à la rapacité des adultes.
Oui. C'est... Hélas, dans notre monde actuel, s'il y avait eu un terme à cela, ce serait bien. Mais je crois bien qu'il y a des endroits encore dans le monde aujourd'hui où cette phrase peut être reprise, hélas.
Loïc Le Goff, nous marquons, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical. Nous revenons... avec votre Pierre Thérault pour suivre ses aventures et découvrir cette France des années 1822-1823 qui se remet de l'épopée napoléonienne qui désormais n'est plus qu'un souvenir car les réalités sont bien présentes avec des cicatrices. Il faut vivre, il faut manger et il faut essayer d'être libre, et ce n'est pas toujours facile dans cette France de la Restauration. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Loïc Le Goff. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Loïc Le Goff, votre dernier roman a pour titre Le Grand Détour aux éditions Mutine. Alors je rappelle qu'on peut le commander chez son libraire, mais on peut aussi le commander directement sur le site des éditions Mutine. Le Grand Détour, c'est Le Grand Détour de Pierre Thiérot, votre jeune héros qui s'est entiché de la fille d'un riche propriétaire nivernais à qui il a fait un enfant et qui est contraint de fuir la vengeance du père qui est à la fois sûr de son pouvoir, violent et prêt à tout pour essayer de sauver l'honneur de sa fille et le sien. En tout cas, Pierre part sur les routes. Il découvre les forges de Guérigny dans la Nièvre. Et là aussi, belle rencontre avec un Breton.
Oui, il va rencontrer un Breton, un marin, qui lui a échoué dans les terres nivernaises, pour une histoire de femme d'ailleurs.
C'est vrai.
Encore une. Et donc,
c'est le Gwen. Le Gwen.
Le Gwen.
Le Gwen, il faut dire le Gwen.
Ça veut dire le blanc en breton. Ah. Argwen en breton. Donc le Gwen va lui parler de Saint-Malo Et lorsque Pierre va avoir quelques ennuis avec les sbires de Dorgeville qui
le pourchasse et qui essaie de découvrir sa cachette.
Oui,
malheureusement, il est découvert.
Ils l'ont découvert. Et bah, Le Guen va l'entraîner vers Saint-Malo, à travers une autre aventure qui est la descente de la Loire, là, à cette époque.
Magnifique description, là aussi.
Les ancres de marine qui étaient fabriquées donc, à Guérigny allaient ensuite, par charroi, allaient jusqu'à Nevers, au port de Médine, à Nevers, et qui avait été construit par Chaussade. Là, elles étaient chargées sur des bateaux qui descendaient la Loire, donc, et les amenaient à Nantes. Et à partir de Nantes, elles étaient réparties dans les différents ports de l'Atlantique en fonction des besoins. Mais il fallait d'abord descendre la Loire. Et donc, Pierre et Le Guen vont donc descendre, faire une partie de cette descente, puisque du côté d'Angers, ils vont quitter ce bateau pour rejoindre Saint-Malo à pied.
Alors, je voudrais juste lire cette description de la Loire. Ses collègues disaient que la Loire était traîtresse, pas lui. Elle était simplement libre, changeante, incertaine, imprévisible même pour ceux qui pensaient bien la connaître. Ce n'était pas un canal monotone et croupissant. Elle vivait, se reposait sereine et inoffensive entre des rives qui semblaient à jamais immuables et soudain se faisaient violentes, bousculaient les digues et parfois les ponts, envahissaient les champs, submergeait maisons et villages, grondait dans le noir des nuits qui la faisait plus effrayante encore. De très très beaux passages de la nature aussi, qui accompagnent ce grand détour, ce voyage qui est une forme d'exil pour Pierre. Parce que lui, la mer,
plaisir.
Il ne sait pas du tout ce que c'est. Et effectivement, ce n'est pas le plaisir.
Non,
il n'a pas le choix.
Plaisir, il s'éloigne de sa mère, il s'éloigne de Milly, il s'éloigne du Nivernais.
En plus, Loïc Le Goff, c'est que Pierre, votre héros, est un homme de la terre. Vous l'écrivez, il était homme de la terre et ne pourrait sans doute jamais relever l'ancre qui le retenait à elle.
Mais oui, c'est vrai. Pourtant, il va la relever, mais au début, il ne pensait pas pouvoir le faire. C'est
mais
certain.
Quelle chance aussi pour lui d'arriver en Bretagne.
Oui.
Parce qu'il y découvre, j'allais dire, une autre culture, une autre façon de penser, parce qu'on pense surtout par rapport à la Gueuse.
Oui, mais il découvre aussi dans la souffrance, aussi parce qu'il est éloigné, encore une fois, de sa mère, il est éloigné de Milly, donc... L'aventure a un goût amer. Quand même.
Il y a néanmoins quelques femmes consolatrices, mais momentanément. Mais le cœur est pris par Milly.
Il y en aura au moins une, oui, donc qui va, est-ce que le terme est exact, agrémenter son séjour à Saint-Malo, mais il reste quand même profondément attaché à Milly. C'est vers elle qu'il retournera de toute manière. Quoi.
Alors, à Saint-Malo, Pierre découvre, grâce à Le Guen, une Bretagne tout de même pittoresque. C'est la Bretagne des marins. C'est aussi une Bretagne qui a les souvenirs alors, de la grande épopée des corsaires et des pirates. C'est les ports, c'est les tavernes, c'est les tripots. Puis c'est aussi les croyances et la religion. La mer, on la vénère. Je pense par exemple à cette statuette de terre cuite, la Notre-Dame de la Grande Porte,
qui existe toujours,
que Marie offre à Pierre au moment où il choisit la pire épreuve, de s'engager sur le Sainte-Anne, donc, qui est un navire, ce qu'on appelle un port nevas, c'est-à-dire c'est la pêche à la morue.
Oui, la pêche à la morue. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, la Bretagne, c'est une terre marée. Terre d'agriculture, pays marin aussi, mais pays de spiritualité
oui.
aussi. La Bretagne est très 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 profondément ancrée dans la religion et dans la spiritualité.
C'est la raison aussi pour laquelle elle a tant résisté à la Révolution française.
C'est pas...
Les rebelles de l'Ouest.
Oui, oui, mais il y a eu d'autres choses là. Il y a eu la levée des 200 000 hommes, c'est-à-dire vouloir envoyer les Bretons se battre sur les frontières du Nord. C'est surtout ça qu'avait créé la chouannerie. Ce n'était pas seulement une affaire de religion.
Oui.
parenthèse fermée. La Bretagne, donc, terre d'agriculture, pays marin, pays de spiritualité. Mais à Saint-Malo, avant tout, domaine maritime. Saint-Malo, c'est la cité corsaire.
C'est Surcouf.
C'était pirate aussi de temps en temps. Fallait faire la différence. Donc la différence, c'est que les corsaires avaient des lettres du roi leur permettant donc d'attaquer les navires ennemis. Les pirates, ils s'en prenaient à tous les navires marchands, quel que soit le temps, quel que soit l'état des relations internationales, ça ne les dérangeait pas du tout. Donc Saint-Malo a construit sa fortune là-dessus. Saint-Malo prêtait de l'argent au roi de France. Saint-Malo a été république indépendante pendant un moment, comme Venise. Aujourd'hui encore, une petite anecdote, lorsque Saint-Malo a été à nouveau rattaché à la France, dans le contrat qui les reliait à la France, il était dit que le drapeau malouin a le droit de flotter au-dessus du drapeau français. Et si vous allez à Saint-Malo, vous verrez que...
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Cité maritime, qui a été attaquée moult fois par les Anglais, qui n'ont jamais réussi à la prendre, et qui est devenue, après la guerre, une cité aussi marchande, et cité de pêche. Les Malouins, comme les Basques, partaient donc sur les... Depuis longtemps d'ailleurs, partaient sur les terres de... Sur les mers de Terre-Neuve, donc, ou de l'Islande, pour pêcher la morue, qui était le plat du pauvre à l'époque. C'était le poisson qu'on pouvait saler, qu'on pouvait sécher, qu'on pouvait conserver, et qui a nourri quand même beaucoup de gens, même à toute époque. Et même si aujourd'hui c'est devenu un plat de luxe, à l'époque, donc, la morue était vraiment le plat qu'on pouvait manger, même à l'intérieur des terres. On pouvait manger un plat qui venait de la mer. D'ailleurs, si vous allez dans le Périgord, on mange du stockfish. C'est de la morue qui vient de Bordeaux. Donc, et à l'intérieur des terres, il y a un plat régional qui est fait à base de morue. Il faut savoir que la morue, c'est du cabillaud séché.
Alors, il faut aussi se faire accepter en Bretagne quand on n'est pas originaire de la Bretagne. D'ailleurs, Pierre, à un moment, est désigné, je ne sais plus par quel marin, qui le considère comme un pouce charru, qui n'a jamais vu un bigorneau ni même un crabe. Et puis, il y a... Est-ce un proverbe ? C'est le capitaine Jourdan qui dit ceci dans votre roman. Pas breton, pas marin. Oui. C'est radical. Hein ça laisse peu de chance. Oui, sauf si on sait grimper à un mât du premier coup, ce qui est le cas de Pierre, parce qu'il a tout de même une puissance musculaire
pendant
et physique.
Pendant longtemps, quand même, les Bretons ont fourni, quand même, surtout dans la royale, dans l'armée, dans la marine militaire, ils ont fourni quand même l'essentiel des troupes. Les Bretons étaient aux commandes des navires ou bien composaient l'essentiel de l'équipage. Mais pouce charru, ça pouvait s'adresser aussi à quelqu'un qui venait de l'intérieur des terres.
Alors,
il y a quand même chez nous une grosse différence entre l'Armor et l'Argoite. L'Armor étant le pays de la mer, l'Argoite le pays de la forêt.
Et alors, il y a ce leitmotiv breton concernant la mer, qui est omniprésente, qui est un élément naturel presque qui organise la vie des Bretons. Il y a les vivants, il y a les morts, et il y a ceux qui vont sur la mer.
C'était ce que les Grecs disaient. C'est vrai qu'une époque où il n'y avait pas les moyens de communication, dès l'instant où on avait passé la ligne d'horizon, où est-ce qu'on était ? On ne savait plus, les bateaux pouvaient partir pendant des mois, quelquefois des années, sans aucune communication avec leur port d'attache. Donc, est-ce qu'ils étaient morts ? Est-ce qu'ils étaient vivants ? C'était le doute permanent. Et ce que disaient les Grecs, qui étaient de grands navigateurs, était vrai au moins à l'époque où il n'y avait pas de communication.
Alors Pierre découvre cet univers de la pêche à la morue, donc sur un Terre-Neuve. Et finalement, il faut apprendre à résister à la solitude, à l'éloignement de ceux que l'on chérit. Puis il faut finalement aussi supporter toutes les douleurs, le froid, le brouillard, le poudrin.
Le danger, le poudrin, qui est une brume un peu enneigée, oui. dans lequel s'enfonçaient les navires de pêche à l'époque.
Et puis il y a les icebergs, les blocs de glace, quand on va de plus en plus vers le nord qui menacent de fracasser le navire.
Oui, et puis il faut savoir quand même que ces marins partaient pour 5-6 mois. Ils partaient durant le printemps et l'été, ils revenaient l'hiver. Ils ne voyaient que l'hiver, en fait. C'était encore un climat hivernal sur les bancs. Et quand ils revenaient en Bretagne, c'était déjà l'hiver, quoi. Donc, ils avaient une vie très difficile, simplement en raison des saisons, mais particulièrement difficile avec les conditions de vie sur les bateaux, avec des vêtements qui n'étaient pas du tout adaptés,
oui.
Avec des navires qui pouvaient être recouverts de glace. Une de leurs préoccupations était justement de casser la glace qui collait au cordage, qui pouvait renverser un navire. C'était quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer, tellement que c'était dur. Et ça, les traces, on les retrouvait dans leur corps, dans les mains énormes, dans les faces qui étaient marquées par l'effort, mais aussi par la fatigue et puis par le froid.
Un extrait de votre roman. Ils étaient maintenant banqués et bien banqués, installés à demeure sur les hauts fonds, sur cette partie du monde où le vent, la brume, la glace, les bourrasques de neige se donnent de tout temps rendez-vous pour célébrer encore les noces du tourment et de la misère des hommes. Mais il y a tout de même le trésor de cette pêche.
Ah oui, oui. Alors, il y a un trésor matériel qui s'appelle...
Ah, c'est magnifique.
Cabillaud.
Ah oui, ils admiraient comme hypnotisés cette première prise tant attendue, un Graal gluant, agité de soubresauts, ouvrant et refermant des ouïes rouges encore, avant de devenir tête coupée, ventre ouvert, chair salée, une pauvre galette triangulaire jetée en fond de cale en attendant des milliers d'autres.
Oui, ça fait la fortune des armateurs, hein. Un petit peu moins des pêcheurs qui n'y trouvaient pas toujours leur compte, mais ça a fait la fortune des armateurs, ça a fait la fortune de Saint-Malo, certainement. Et d'ailleurs, quand... Moi, j'ai connu le dernier moroutier, qui s'appelait le Pléven, mais bon, depuis que les quotas de pêche ont été réduits là-bas, oui. Donc aujourd'hui, c'est terminé.
Et justement, vous parlez de la pêche, c'est une marchandise précieuse qui a enrichi beaucoup de personnes, mais... Vous mettez aussi en avant dans votre roman Le Grand Détour le thème de l'humain qui peut aussi être une marchandise. Par exemple, vous parlez des bagnards. Il y a un épisode absolument magnifique de ces hommes qui vont de Paris jusqu'au bagne de Toulon et qui font étape d'ailleurs en Bourgogne, à Dijon, dans un lieu qui s'appelle La Chaleur. Vous écrivez « Les bagnards n'appartenaient plus à la société, n'étaient plus tout à fait des hommes, mais devenaient une marchandise confiée à des entrepreneurs qui avaient pour mission de la livrer au bagne dans les meilleurs délais et en modérant, si possible, les pertes. »
Oui, oui, ça c'est comme les fermiers du Nivernais, comme les ouvriers de Guérigny, comme les pêcheurs sur les Terre-Neuve. Ben, il y a les exploitants et les exploiteurs. Et là, même au niveau du bagne, il y a encore des exploitants et des exploiteurs.
Et c'est en cela que le roman a aussi une veine sociale très largement marquée, c'est
oui,
évident.
J'y tiens beaucoup.
Donc les enfants, on en a parlé. Il y a aussi l'épisode de la petite négresse qui est violée par le capitaine, puisque le Gwen, qui va donc accompagné Pierre jusqu'à Saint-Malo. Le Gouen a été mousse sur un négrier. Il a connu cette époque-là.
Ça, si vous en parlez à Saint-Malo, on fera la politique de l'autruche. Hein. On ne va pas en parler, mais Saint-Malo a été un port négrier aussi. Beaucoup moins important que Nantes Bordeaux. Ou Bordeaux. Hein, mais il y a eu quand même des navires négriers à Saint-Malo. On ne veut surtout pas en parler. On préfère la gloire militaire des corsaires.
Mais... Et d'ailleurs, le Gouen lui dit à Pierre, tu vois, être mousse, c'est aussi subir. Il y a une espèce de résignation, quoi. C'est ainsi.
Oui, parce que ceux qui sont marins à cette époque ont eux-mêmes été mousses. Et ça leur paraît naturel qu'il y ait cet état pour des enfants sur un bateau. Il y en a peu qui se révoltent.
D'ailleurs, ce capitaine, souvenir de Le Gouen qui se rappelle du capitaine qui veut lui donner la petite négrillonne à baiser, hein, pardonnez-moi pour être vulgaire, j'ai un cadeau pour toi, effectivement, et... Le capitaine dit au jeune Le Gouen qui est mousse, tu vois cette négrillonne, elle est pour toi. Tu vas lui montrer ici que t'es devenu un homme. Allez, prends-la, tout de suite, de toute manière, elle ne vaut plus rien. Ce salaud de Martin l'a dépucelée. Alors une fois ou dix, c'est pareil. Oui. Il y a des duretés comme ça.
Oui, mais qui étaient réelles, hein, qui étaient réelles sur ces bateaux. Hein.
Alors évidemment, Pierre reste un temps en Bretagne. Retrouvera-t-il le Nivernais? Retrouvera-t-il Milly? Je n'en dirai pas plus. Il faut, dans ce cas, lire Le Grand Détour, le dernier roman de Loïc Le Goff. Un tout petit mot de conclusion avant de nous dire au revoir.
Alors, je reviendrai surtout sur l'aspect social de ce livre. Moi, j'y tenais beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches pour établir ce livre, pour ne pas faire d'erreur historique. J'ai été beaucoup marqué par la condition humaine que j'ai retrouvée dans toutes mes lectures. C'est une époque de bouleversement parce que c'est une époque où on va vers l'industrialisation, à marche forcée. Mais c'est certainement une époque de progrès technique. Ce n'est pas une époque de progrès social.
Pas encore. On n'est qu'en 1823. Hein.
Oui, mais ça annonce des temps très, très durs, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la littérature à l'époque. Hein. Mais j'ai voulu surtout mettre l'accent, bien plus que cet amour entre Émilie et Pierre, j'ai voulu que ce soit le support simplement pour décrire une condition sociale de cette époque dans différents domaines. La terre, l'industrie, la mer, et faire en sorte que ce soit aussi un réquisitoire contre l'injustice entre les hommes.
Rappelons les propos du père à son fils Pierre. Ne sois jamais leur esclave, tu dois être un homme de service et non de servitude. Merci Loïc Le Goff d'avoir été l'invité de Wagon Livre. Je rappelle donc le titre de votre dernier roman, Le Grand Détour, disponible aux éditions Mutine, donc sur le site des éditions Mutine, mais bien évidemment disponible également en librairie, un très beau texte.
Merci.
Très beau texte, très belle histoire, mais effectivement un contexte historique, économique, extrêmement riche, passionnant, émouvant, un très grand plaisir de lecture pour ma part, un roman que je recommande chaleureusement en cette rentrée littéraire. Merci Loïc Le Goff. Pour celles et ceux qui auraient manqué le début de notre échange, vous le retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine et rendez-vous bien évidemment samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.
Au revoir. Thank you.